Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, bienvenue sur Bretagne 5. Michel Philippot, la plume est à vous. Avec ce soir, une nouvelle de l'écrivain Gérard Glatt. Gérard Glatt a publié plus d'une dizaine d'ouvrages, notamment des romans aux presses de la Cité, aux éditions Kalman-Lévy, aux éditions Deboré et prochainement chez Ramsay. On le croise également en littérature jeunesse, aux éditions Hachette Jeunesse. Et Gérard Glatt est aussi sociétaire de la Société des gens de lettres, membre de l'Association des écrivains de Bretagne et de la Maison des écrivains et de la littérature. Il est aussi membre du Pen Club de France et de la Société des poètes français. Il nous fait ce soir l'amitié et l'honneur de partager en avant-première avec les auditeurs de Bretagne 5 un texte extrait d'un recueil à paraître prochainement sous le titre 1,90€. Le texte que nous allons lire ce soir est intitulé « Au numéro 10 de la rue Belgrand ». Pénétrons avec lui au cœur de ce petit appartement parisien, si typique d'un temps presque révolu, où les concierges et autres pipelettes ou bignoles veillaient en loge sur leur petit monde et ne connaissaient pas encore le fatal digicode. Au numéro 10 de la rue Belgrand. De retour du Sénégal. 8 jours passés en Casamance au club Fram, Marcel et René. Elle, petite et ronde, lui, grand et chauve. Des gens ordinaires, retraités de longue date, au 10 de la rue Belgrand. Un immeuble ancien de belle allure tout de même. La façade à peine craquelée. Marcel a les bras chargés de souvenirs. René, le visage rouge cramoisi, eczémateux par endroits. Il n'a jamais supporté le soleil, alors celui du Sénégal. Une valise à roulettes au bout de chaque bras. L'œil fier, un large sourire aux lèvres, chacun adresse un léger mouvement de tête à la gardienne, postée dans sa loge, derrière sa porte vitrée. Elle serait bien sortie les saluer, mais bon, vu que le Sénégal ne sera jamais pour elle. Marcel et René. 3 jours plus tard, accoudés à leur fenêtre, celle de leur séjour qui donne rue Belgrand, sans vis-à-vis à cause des arbres, sauf en hiver. Marcel et René aiment bien l'hiver, l'automne aussi, et le début du printemps. Lorsque les feuilles sont tombées, ou les bourgeons pas encore éclatés. Parce que les gens, en face, et les lumières, le soir, ça leur donne un semblant de compagnie. René est en train de se moucher quand Marcel le pousse du coude. D'un bref mouvement du menton, elle lui fait signe de regarder au rez-de-chaussée. Ils habitent au second étage. Juste en dessous sort la gardienne de l'immeuble, une valise pourrie à la main. Du moins, c'est Marcel qui l'a dit pourrie, parce que René n'est pas d'accord. Elle est moche, la valise, c'est sûr, et pas d'hier, mais encore potable, comme l'eau. L'eau potable, pouf René, une blague. Une blague comme il les aime. Bonne, mais pas méchante. Marcel hausse les épaules. Pendant ce temps, la gardienne s'éloigne. Où elle va ? À la gare de Sterlitz, prendre le train qui la conduira jusqu'à Limoges, chez son beau-frère, le mari de sa sœur. Là-bas, tous les deux perdus dans la campagne, un trou, comme elle dit, eh bien, ils tiennent une ferme. Une fermette, rectifie aussitôt Marcel, que la folie des grandeurs n'a jamais effleurée. Ce serait plutôt le contraire. Surtout quand il est question des autres. Même que leurs trois vaches, elle ajoute, le ton aigre et la bouche amère, elles ne doivent pas être à eux. Cette fois, c'est au tour de René de hausser les épaules, parce qu'il pense à la gardienne. À chacun ses vacances, voilà tout, et selon ses moyens. Il rumine pour lui seul. Elle en a de bonnes, Marcel, avec ses remarques, comme si elle savait ce que ça peut coûter une vache. Parce que, bon, tout le monde ne peut pas se payer 8 jours au club Fram. René, quelle heure il est ? C'est Marcel. À nouveau penché à la fenêtre et les bras croisés sur la rambarde qui brame comme une diablesse et n'en croit pas ses orbites. René hausse les épaules. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, de l'heure qu'il est ? C'est comme Marcel, du prix des vaches. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Elle n'a qu'à se retourner un brin. Sur le mur, fiché là depuis des lustres, il y a son carillon. Une part d'héritage qu'elle tient de ses parents. Comme si ça ne suffisait pas à René de se jucher sur une chaise tous les 8 jours de la semaine pour en remonter le mouvement. Voilà qu'en plus, il faudrait qu'il regarde l'heure et qu'il la lui donne. 13h30, il répond malgré tout. Brave bougre. Et pourquoi donc ? Il ajoute. Marcel lui répond qu'il ferait mieux de venir. « Mais dépêche-toi un peu » glousse-t-elle. C'est la gardienne qui revient déjà, sa valise avec elle. La gardienne qui s'arrête tous les 10 pas, souffle un moment et repart, et fait ce qu'elle peut pour ne pas lever la tête. Ne pas lever la tête à cause de Marcel qui est toujours à la fenêtre, à la reluquer, penchée à sa rambarde. Oh, ça lui ferait du bien pourtant de se redresser, les mains sur les hanches, de s'étirer un franc coup, la nuque en arrière, et de regarder le ciel. Plutôt que d'accourir, René laisse sa femme à sa vilaine jouissance. Coincé dans son fauteuil avec sa zapette, il préfère se brancher sur BFM TV. La chaîne qui dit tout, même quand il n'y a rien à dire. Ah oui, c'est sûr qu'il articule sous le coup de la surprise. Limoges, ce sera pour une autre fois, dit-il encore. Pauvre Bertrande, tu entends ce qu'ils disent à la télé, Marcel ? Une bombe, gare de Sterlitz, qui aurait explosé. Marcel rigole. Elle tourne la tête. En tout cas, c'est pas Yvonne qui l'a posé. Elle fait comme ça, en se tordant. Yvonne, c'est le prénom qu'elle donne à la gardienne. C'est ainsi depuis toujours. Son vrai nom, c'est Bertrande, pas Yvonne. Seulement voilà, la gardienne, quand elle vous cause, Marcel prétend qu'elle sent le chou. Et moi, je te répète que les Bertrandes, elles ne peuvent pas sentir le chou. Bertrande, c'est bien trop chic pour une Yvonne. A décrété Marcel un beau matin. Il y a combien 20 ans de ça, oui, 20 ans, sinon plus. Les Yvonnes, continue-t-elle avec sérieux, eh bien je te jure, elles sentent le chou, voire le cul des vaches, comme en Auvergne. Tu sais, le pays où ce qu'on fait la potée. Et de rigoler de plus belle, sans la moindre humanité. Si bien qu'elle finit par s'étrangler. Alors, le visage soudain cramoisi, elle éructe.
« Tape-moi dans le dos, René, tape fort, tu vois bien que je m'étouffe !»
Et lui, de s'exécuter. Oh, de bonne grâce. Il faut dire, parce que d'une certaine façon, de taper dans le dos de Marcel à bonne hauteur entre les omoplates, eh ben, ça le soulage et ça lui dissipe les crampes qu'il attrape comme des virus au niveau du plexus, les fois comme aujourd'hui où elle répand son fiel sur la pauvre Bertrande. « Ah ça » rumine-t-il tout en tapant où il faut, là où il faut. Il aurait bien voulu la voir, la tête de Marcel. Si une bombe avait explosé dans son charter entre Paris et Dakar, ou l'inverse. Et savoir dans quelle piteuse marmelade ça l'aurait transformé. Et comment est-ce qu'on l'aurait récupéré ? Enfin bon. René préfère en rester là de ses questions à la noix qui lui font un peu honte. D'autant plus qu'il aurait été avec Marcel, assise près du hublot et lui, du côté du couloir. Sûr qu'il n'aurait pas été plus beau à regarder. Peut-être même qu'on ne les aurait retrouvés ni l'un, ni l'autre. Leur reste dévoré tout cru par les requins, la viande et les os et les vêtements, et même le sac à main de Marcel tout en vrai cuir, où elle serre ses bijoux avec amour. Lorsque Marcel se rend chez le coiffeur, ce qui est le cas aujourd'hui, ou dans un ailleurs qui suppose de sa part une absence assez longue, d'au minimum une heure, il n'est pas rare que René descende les deux étages et frappe à la porte de Bertrande. Si elle n'est pas là, ce qui arrive, car elle bénéficie de quelques heures de loisirs elle aussi, des heures qu'elle est d'ailleurs bien loin de gaspiller, si dévouée qu'elle est à des gens qui n'en valent pas toujours la peine, bien sûr, il n'insiste pas et sort se promener. Il pourrait lui glisser un mot dans sa boîte du style, par exemple, « Repasserai dans un petit quart d'heure » ou bien « Demain après-midi, si vous avez du temps. » Marcel a rendez-vous chez son dentiste. Mais il aurait l'impression de s'imposer. Et ça, il ne le veut surtout pas. Bertrande, elle, n'y verrait certainement aucun inconvénient. Venu de lui, un tel geste la toucherait même plutôt. Sans vouloir de mal à Marcel pour autant. Bertrande n'est pas comme ça. D'ailleurs, qui la prend pour ce qu'elle est ? Pas une mauvaise femme, ça non. Mais une personne que les années ont aigrie et que le peu d'argent qu'elle possède suffit à rendre hautaine. C'est ça. Elle la prend pour ce qu'elle est et ne lui en veut en aucune façon. Donc, si Bertrande est là et n'a nulle envie de prendre l'air, c'est le visage accueillant qu'elle ouvre la porte à René et l'invite à entrer dans sa loge. Enfin une loge. Un joli deux pièces, au vrai, sa chambre et la cuisine donnant sur la cour, le séjour sur la rue, la salle de bain et les toilettes se partageant un étroit couloir. Ça aussi, pour tout dire, ça fait bisquer Marcel. Son deux pièces serait bientôt mieux fichu que le nôtre, qui en a trois. Qu'il lui arrive comme ça de ruminer sans raison, tout bonnement parce que Bertrande est devenue sa bête noire. Du jour où elle lui a dit que son beau-frère Émile avait une ferme située entre Limoges et Saint-Junien, avec des vaches, des poules, des lapins, des prairies pour ses vaches et des veaux, quand c'en est l'époque, et des hectares de terre à cultiver sous un ciel souvent humide et gris. À ce moment, la gardienne s'était demandé pourquoi elle avait dit ça, pourquoi elle avait dit que son beau-frère devait œuvrer sous un ciel humide et gris, et pourquoi ça lui était venu que le ciel en Limousin, il devait être plus souvent gris que bleu, alors qu'en fait, il est aussi bleu que partout ailleurs, peut-être même encore plus bleu à cause de l'océan, pas bien loin. Elle ouvre la porte à René et selon l'heure qu'il est, lui propose un café ou un thé. Ah, pas un café capsule, non, non. Un café qu'elle lui prépare avec un filtre en papier et sur une petite assiette, elle dispose des langues de chat. Juste ce qu'il faut pour grignoter. Ensuite, ils restent assis, l'un en face de l'autre, de part et d'autre de la desserte. Une table ronde en bois massif dont Bertrande replie les pieds quand elle n'en a pas l'utilité. En général, René s'en occupe, tant pour la mettre en place que pour la glisser derrière une commode. « Il est excellent, votre café, » dit René. « Racontez-moi plutôt votre Sénégal, » lui répond Bertrande. René ne se fait pas prier. Il est venu pour ça. Pour l'instant, il lui parle surtout de Dakar, parce que la Casamance, c'était dans un club de vacances, et lui, les clubs, il n'aime pas trop. À Dakar, avec Marcel, ils y sont allés à deux reprises. « C'est comme une ville européenne, » il dit à Bertrande, « mais tout de même pas pareil. » Surtout, lui, ce qui l'a marqué, c'est l'île de Gorée, d'où l'on embarquait les esclaves, encore au XIXe siècle, à destination des contrées lointaines. Il en parle longuement, il en parle avec force de détail, parce que ça l'a remué, jusqu'aux tripes. Ah, Bertrande, vous ne pouvez pas supposer. La maison des esclaves et l'ocre rouge de ses murs, l'église Saint-Charles-Borromée et sa façade en colonnade, les étroites ruelles qu'enrubanent les bougainvillées en fleurs, l'âpre statue de l'esclave qui rompt ses chaînes et de cette femme amoureuse qui l'enlace. Je n'oublierai jamais. Oh, je ne pourrai pas, dit-il. C'est si terrible, ce que ces gens ont vécu. Un instant, René s'interrompt. Il lève sa tasse, la porte à ses lèvres. Quand il reprend, c'est pour évoquer l'île de Ngor, minuscule et pimpante, joyeux sursaut de l'Atlantique au large du quartier des Almadiers. France Gall y avait une maison, précise-t-il, tandis que Bertrande, attentive, l'œil vigilant croit voir passer Marcel. Du moins, est-ce sa silhouette qu'elle a cru reconnaître derrière le rideau accroché à sa porte, un voilage qui protège sa vie privée. Marcel a l'air chargé, comme embarrassé d'un lourd et volumineux paquet. Bertrande l'a vu hésiter, esquisser un geste du bras, comme sur le point de venir frapper, puis se raviser aussitôt. C'est elle, à présent, qu'on entend monter les escaliers, marche à marche. Bon sang, c'est vrai! Quel boucan elle peut faire! René, je vous ai interrompu, s'excuse Bertrande, navrée. Qui est-ce donc pour faire un tel raffut? S'inquiète alors René. Il va pour se lever, mais Bertrande le retient. Laissez, laissez, dit-elle, je vais jeter un coup d'œil. Je crois savoir. Ça n'est pas important. Et lorsqu'elle revient s'asseoir, qu'est-ce que je vous disais? Tout est déjà rentré dans l'ordre. Si Marcel est dupe de la situation, bien sûr que non, la question n'est même pas concevable. Le manège qu'entretiennent René et Bertrande remonte à l'année où il a pris sa retraite. Il avait alors 63 ans, il en a maintenant 75. Le calcul n'est pas difficile à effectuer. Auparavant, lorsqu'ils se croisaient, ils ne s'accordaient jamais que de respectueux saluts. « Bonjour, Madame Bertrande », faisait l'un un sourire de circonstance aux lèvres. « Bonjour, monsieur », se contentait de répondre l'autre, bien souvent sans même lever la tête. Et puis, du jour où René avait cessé de travailler, tout avait changé. Chez lui, surtout, qui avait soudain admiré la conscience de Bertrande à rendre les escaliers toujours plus impeccables, tout comme le zèle qu'elle mettait à distribuer le courrier, sitôt passé le facteur. Assurément, selon René, Bertrande était la plus dévouée gardienne d'immeubles du quartier, voire des 11e et 20e arrondissements réunis. Des observations de ce genre, René n'en était pas avare, ce qui avait le pouvoir d'agacer Marcel. Que lui prenait-il donc de s'intéresser tant à Bertrande? Et comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et patati, et patata. Oh, un moment, Marcel en était presque devenu jalouse. Son humeur, déjà si peu facile, s'en était vite ressentie. Cependant, les mois s'écoulant, elle s'était rendue compte que René restait toujours René. Plaisante à son égard et parfois caressant, que leur vie, pour autant, n'était en rien changée et que c'était probable, elle se faisait des idées. Ainsi avait-elle fini par admettre la complaisance de son époux à l'endroit de sa bête noire. Bertrande, autrement nommée Yvonne, continuait à sentir le chou, elle n'en démordrait pas, mais dans la mesure où cette odeur n'insupportait pas René, n'est-ce pas? Une odeur, malgré tout, avait-il consenti une certaine fois, tard, très tard, dans une lointaine soirée qui n'était peut-être pas si éloignée de la réalité, ou qui, si elle n'était pas vraiment de chou cuisiné à la mode auvergnate, provenait alors de la fatigue que Bertrande, appliquée comme personne, se donnait à astiquer les marches et les rampes, le carrelage et les moquettes. Une chose, Marcel, que tu es incapable de comprendre, avait-il achevé d'une intonation un tantinet acide. Dès lors, Marcel s'était désintéressé de leurs entrevues et de ce qu'ils pouvaient bien avoir à se dire. Quand elle sortait, seule, elle ne demandait pas à René ce qu'il ferait durant son absence. Elle le savait déjà, tout comme elle savait qu'il ne lui dirait pas la vérité. Car il ne lui disait jamais qu'il avait passé une partie de l'après-midi chez Bertrande à discuter de la pluie ou du beau temps ou de littérature ou bien de politique, ce qui était plutôt rare, ou encore de l'humanité et de son devenir, notamment face au réchauffement climatique. il ne le lui disait jamais, pas même lorsqu'elle était rentrée avant lui et qu'il l'avait vue passer sans s'arrêter devant la loge de la gardienne. Alors, quand il remontait à son tour, il claironnait « Ah, ah, tu es déjà à la maison !» Et il ajoutait aussitôt « Moi, je reviens tout juste du Père Lachaise, où j'ai visité Chopin. » Un autre jour, il lui disait avoir rendu visite à Héloïse et à Bellard. Un autre jour encore, c'était avec le chanteur Jim Morrison qu'il avait longuement conversé. Des célébrités de toutes les époques et de toutes les sortes, des musiciens, des sculpteurs, des peintres, des chanteurs, des écrivains, il en disposait d'une centaine, éparpillés dans tout le cimetière. « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» demandait-il ensuite. Marcel ne lui répondait même plus, sinon en haussant les épaules. Alors, tous deux se contentaient de reprendre le train-train de leur existence, comme s'ils ne s'étaient pas séparés une seconde. Marcel, satisfaite de pouvoir grogner contre Bertrande, si l'occasion se présentait à elle, ce qui n'avait pas manqué ces derniers temps depuis leur retour du Sénégal. Et René se contentant d'en prendre la défense, sans trop insister cependant. Après tout, si c'était une amie, ce n'était tout de même que la gardienne de l'immeuble, pas vrai? Et puis quoi? Est-ce qu'il savait vraiment si Marcel la détestait autant qu'elle voulait bien le laisser supposer? Lui aurait-il demandé? Que lui aurait-elle répondu? René et Marcel, entre deux feux, comme tout un chacun, aussi perclus de contradictions l'un que l'autre. Marcel et René sont revenus du Sénégal depuis une semaine et Bertrande de la gare d'Austerlitz depuis 4 jours. De l'attentat qui n'a fait qu'un léger blessé, fort heureusement, il n'est plus question. Bertrande a obtenu qu'on lui échange son billet contre un autre et toute heureuse, elle en a informé René. Elle partira dans 48 heures par le TGV de 10h11 et voyagera en première classe. René lui a dit hier soir, « À votre retour, vous me raconterez ?» Un sourire malicieux dans les yeux, elle lui avait répondu, « Oui, bien sûr, mais Limoges, ça n'est pas le Sénégal. » Il a opiné, puis il est remonté chez lui où Marcel l'attendait, déjà assise à table. C'est qu'il était bientôt 20h, l'heure du journal sur la 2. Ce matin, quand Bertrande a pointé le nez sur le pas de sa porte, elle aime saluer son monde quand il part au travail, surtout en plein été. Elle a bien failli culbuter par-dessus le parquet qu'on avait posé là. Sur son passage. Un paquet? Ah, les cons! Elle a fait comme ça, s'agrippant juste à temps à son rideau. Elle a tourné autour un moment, se demandant ce que ça pouvait être et si c'était pour elle, cet énorme bazar qui prenait bien de la place. Sur l'emballage, on avait scotché une enveloppe. « Pour vous », c'était marqué. « Pour moi ?» a demandé Bertrande en se pointant du doigt. Comme personne n'était là pour lui répondre, elle a tiré le paquet chez elle et refermé sa porte. Dans l'enveloppe, une carte de visite était glissée et sur la carte de visite, ces simples mots. Les vacances, est-ce que ça vaut la peine d'attraper un lumbago? Alors, à la hâte, elle s'est débarrassée de l'emballage et a découvert avec stupeur la valise dont elle rêvait depuis si longtemps, que Marcel et René lui offraient. Et de s'extasier bientôt en la voyant de ce gris clair si lumineux, avec sa poignée escamotable et ses quatre roulettes, ses compartiments intérieurs et ses pochettes. En regardant le plafond, elle s'est exclamée « Oh, mais ils sont fous !» À ce moment, elle a entendu du bruit dans les escaliers. Alors elle a rouvert sa porte, des fois que ce soit Marcel, au moins qu'elle puisse la remercier. Mais Marcel est passé, sans s'arrêter, et comme à son habitude, elle a lâché sur son passage un grincheux « Bonjour !» Son sac à la main, elle partait faire ses courses. Alors Bertrande a hoché la tête. Oh, pas franchement déçu, non. Parce que elle a pensé que demain, quand elle s'en irait, Marcel serait penché à sa fenêtre et qu'elle la regarderait s'éloigner avec sa valise toute neuve. Une valise qui glisserait sur le trottoir et lui laisserait toute liberté pour lever le bras en signe d'au revoir. Au revoir et merci, Madame Marcel. Au revoir, René. À bientôt. Donnez, donnez, donnez sans que jamais cela se sache, à la manière d'aimer, sans vouloir se l'avouer. La devise de Marcel.
Passe, passe, le bonheur joue à cache, cache. Parfois la vie me dépasse et pourtant je souris. Je passe tous les jours par la même place. On défigure, on me froisse et pourtant je souris. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut nous tendre, même si ça ne dure qu'une nuit et qu'au matin la grâce s'enfuit. Faut savoir dire merci. Trace, trace, il faut vite prendre ta place avant qu'on ne te remplace. On court derrière sa vie. J'efface d'un revers de manche l'espace, les distances qui nous terrassent. Je souris tant que je suis. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut. La grâce s'enfuit, faut savoir dire merci.
Faut savoir dire merci. savoir dire merci, la chanson de Lilian Renaud, eh bien ça nous rappelle ce mot si simple qui sait mettre tant d'huile dans nos rouages sociaux, parfois bien grippés. Et sous la carapace se cachent aussi parfois des trésors de générosité. Ainsi en va-t-il de Marcel, notre héroïne du 10 de la rue Belgrand, peu encline, d'ordinaire, comme nous l'avons vu, à manifester ses sentiments. Et pour terminer sur une note d'humour, je reprendrai à mon compte cette citation du génial Pierre Dac. Donner avec ostentation, ça n'est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, bah ça vaut guère mieux. La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Merci à Frédéric Guillon aux manettes qui a réalisé cette émission avec son talent coutumier. Je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Bretagne 5. À dimanche prochain, même heure, même antenne. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.